Bonsoir, signature la semaine dernière à Kinshasa des pactes pour le doublement des recettes entre le ministère des Finances et les régies financières. Comment cela va-t-il se concrétiser? Nos invités dans cette émission sont Célestin Vounabandi, député national et membre de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale et ancien ministre du portefeuille. Dieudonné Loukadi, directeur de cabinet adjoint du ministre des Finances avec nous dans ce studio. Bonsoir, monsieur Loukadi. Alki Tengue, stratégiste en économie, analyste économique et directeur général de Synergie Group, une société de consulting également avec nous dans ce studio. Vous êtes également très nombreux à réagir, vous, chers auditeurs, notamment Augustin Mwango de Kindu au Maniema. Je crois que cette initiative est à encourager pourvu qu'elle ne fasse pas partie du chapelet de bonnes intentions auquel nous assistons à une année de la fin de cette législature. Nous constatons que beaucoup de bonnes initiatives ont déjà été annoncées pour cette année 2010, mais nous avons besoin du concret et non des déclarations médiatisées. Rigen Ingoma de Mbandaka, l'Équateur, qu'adviendra-t-il au cas où les régies financières n'atteindront pas le double de ses recettes? Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Les régies financières ont pris l'engagement de produire le double de leur assignation pour l'exercice en cours. Le Premier ministre qui a présidé la signature de ces pactes a déclaré que les opérateurs économiques qui feront preuve d'un grand civisme fiscal seront épargnés des tracasseries administratives et bénéficieront du soutien politique nécessaire, tandis que les fraudeurs attitrés ainsi que leurs complices de l'administration fiscale seront identifiés et catalogués. Adolphe Mozito a fixé au mois d'avril prochain, la première évaluation des pactes, plus particulièrement en ce qui concerne la Direction générale des impôts sur les déclarations fiscales liées au revenu fiscal 2009. Mais quels sont les mécanismes mis en place pour concrétiser cette opération? Le ministre des Finances, Matata Ponyo, répond au micro d'Agathe Mpona.
C'est très simple. Vous savez que notre pays est réputé un pays où la fraude et l'évasion fiscale est très élevée. Un pays où les agents du fisc détournent l'argent dû à l'État. Donc il y a des opérateurs économiques qui payent, mais cet argent-là n'entre pas dans les comptes général du Trésor, il entre dans les comptes des privés. Et donc, nous avons dit que la première chose, c'est de prendre les mesures qui s'imposent pour pouvoir juguler ces mécanismes de fraude, d'évasion fiscale et de détournement des fonds publics au niveau de la régie. La deuxième chose, madame, ceci est très important, c'est d'élargir la base fiscale. Vous savez qu'il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui opèrent dans ce pays et qui ne sont affiliés à aucune corporation professionnelle et qui ne payent pas d'impôts. Et puis, il y a des réformes. Il faut réformer le système fiscal congolais. D'une manière générale, nous avons trouvé ici des initiatives qui visent la réforme de tous les systèmes financiers de la RDC et nous avons dit que nous allons accélérer la réforme du système fiscal congolais. Voilà l'ensemble des mesures qui devraient nous permettre, et à court terme et à moyen terme, de pouvoir augmenter les recettes tributaires.
Dieudonné Loukadi, directeur de cabinet adjoint du ministre des Finances, avant d'aborder les mécanismes énoncés par le ministre des Finances, quelques précisions. Pourquoi un pacte et non un contrat de performance?
Bon, en fait, merci d'abord pour cette occasion que vous me donnez de pouvoir parler du pacte de doublement des recettes. Et, en fait, il s'agit d'un très grand défi que le ministère des Finances s'est fait pour l'année en cours. Et ce défi consiste à doubler au moins les recettes réalisées par les régies financières en 2009. Et pourquoi on a parlé de pacte et non pas de simple contrat de performance? En fait, c'est pour insister sur l'engagement et du gouvernement et des régies financières à pouvoir atteindre cet objectif. Je crois qu'il y a un terme fort qui a été utilisé par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Il a dit que c'est une question de vie ou de mort. Parce qu'en fait, il s'agit d'une question essentielle pour notre pays. le renforcement de l'État. L'État doit avoir suffisamment de moyens pour pouvoir mener sa politique. Et pour que cela soit possible, il faut que l'ensemble de la population puisse contribuer et que tous les droits qui reviennent à l'État puissent être correctement, disons, et totalement payés. Et c'est cela qui permettra à ce que le pays puisse aller de l'avant. Et c'est pourquoi on a signé en fait un pacte pour insister sur l'engagement. Donc l'engagement est plus fort que pour un simple contrat. Donc il s'agit d'une question essentielle sur laquelle l'État, disons, le gouvernement engage sa responsabilité et voudrait que les régies aussi puissent engager la leur pour qu'on puisse arriver à relever ces défis.
Et pourquoi ce pacte intervient maintenant seulement et pas avant?
Bon, je crois que cela relève de la vision au niveau du gouvernement. Le gouvernement a fait une certaine appréciation de la situation actuellement et a dû prendre la décision maintenant. Donc cela relève en fait de la volonté politique, peut-être soutenue, qui observe maintenant.
Al Kitenge, vous êtes avec nous dans ce studio, mais avant de vous donner la parole, Célestin Vounabandi, honorable, vous êtes en ligne?
Oui, nous sommes en ligne, merci.
Vous êtes député national, membre de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale, ancien ministre du portefeuille. Vous venez de suivre le directeur de cabinet adjoint du ministre des Finances, Dieudonné Locadie. Quelle est l'opportunité de signer ce pacte en ce moment?
Bien, merci. En soi, toute mesure visant à mobiliser un peu plus de recettes est la bienvenue. Et donc, lorsqu'aujourd'hui le gouvernement pense qu'il faut signer ce qu'il appelle un pacte et non pas un simple contrat, c'est une très bonne chose. C'est quelque chose de très opportun. Mais bien, là, il va falloir savoir exactement quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Parce que lorsqu'on parle d'un pacte, c'est quelque chose de plus fort, n'est-ce pas, qu'un simple contrat, comme le directeur du cabinet de Géraldi. Mais il faut déterminer les responsabilités de chaque partie. Il faut que les régies financières soient à mesure de remplir, n'est-ce pas, la part qui leur revient de ce pacte. Mais il faut également que le gouvernement fasse également sa part dans ce pacte.
Voilà, Al Kitenge, analyste économique, stratégiste économique également, directeur de Synergie Group, une société de consulting. Comment vous analysez, vous, l'opportunité en ce moment de ce pacte?
Je considère simplement qu'il y a là un constat commun entre les opérateurs économiques et le pouvoir. Mais d'autre part, il y a tous les services mobilisateurs des recettes de l'État. Et je pense que si les services mobilisateurs de recettes de l'État et le gouvernement sont tombés d'accord, c'est qu'ils sont d'abord partis d'un constat. Un constat en toute honnêteté, en toute sincérité, où des évidences ont démontré qu'il était possible, sinon le ministre ne prendrait pas le risque, de doubler les recettes du moins interne. Cela sous-entend quand même qu'on analyse le passé récent. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Et lorsque vous entendez l'argumentaire du ministre, le premier point, c'est la fraude. Lorsque on admet de manière classique que pendant longtemps nous avons souffert de la fraude de nos propres services, il y a donc la nécessité de pardonner sincèrement, mais de prendre un engagement fort. C'est comme ça que moi j'entends le mot pacte. Ça veut dire, on ne fera plus jamais comme on l'a fait par le passé, et désormais nous regardons les choses positivement. De ce point de vue-là, il y a donc une action de moralité qu'il faut mener, c'est la promotion des valeurs positives, des valeurs citoyennes au sein de nos différentes administrations. Il y a bien entendu les responsabilités de l'État, mais il y a surtout les responsabilités des fonctionnaires. Et lorsque vous regardez les choses d'en face, une seule chose apparaît de manière assez claire, c'est que cet engagement est très risqué. Si nous l'échouons, ce sera très grave, mais si nous le réussissons, ça démontrera que nous pouvons aller beaucoup plus loin. À ce stade, c'est du moins mon appréciation.
Alors, est-ce que nous pouvons placer ce pacte dans le contexte global de l'atteinte du point d'achèvement?
Non, je pense simplement que c'est deux choses complètement différentes. Le point d'achèvement est une chose, ça nous donne des avantages dus à des économies que nous aurions pu continuer à payer en termes de dette. Mais là, il faut savoir que nous jouons l'avenir de notre pays. Nous sommes un pays coincé entre l'Angola et le Congo. L'un comme l'autre ont 20 et 30 fois plus de moyens financiers par tête d'habitants. Il faut savoir que nous ne pouvons pas survivre longtemps dans cette condition. À côté de ça, il faut quand même savoir que les ambitions économiques de ce pays sont énormes. Et donc, nous ne pouvons pas compter toujours sur l'aide extérieure. Nous devons surtout compter sur les recettes intérieures qui sont en fait le reflet de la transpiration économique de notre pays. Et là-dessus, c'est un premier jalon que nous posons. Le deuxième jalon, c'est de dire comment nous faisons pour avoir une économie qui répond aux besoins réels de notre pays.
J'ai donné l'occasion raisonnement au mécanisme énoncé par le ministre Matata Ponyo. Pour atteindre cet objectif, le doublement des recettes, il faut juguler la fraude, l'évasion fiscale, élargir l'assiette fiscale. Mais tout ça, qu'est-ce qui nous dit que ça ne va pas rester un chapelet de bonnes intentions, comme on l'a souvent dit dans ce pays?
Ok, merci. Je crois qu'il faut d'abord noter que le pacte est assis sur un programme d'action cohérent. Donc, le travail a été fait d'abord au niveau des régies. Et leur programme a été discuté en détail. Donc, il existe un programme détaillé avec un chronogramme précis et qui est mis en œuvre. Et toutes les actions ont été soigneusement évaluées et l'impact de toutes les mesures pourront permettre à ce que on puisse effectivement arriver à un doublement des recettes. Donc, il ne s'agit pas tout simplement d'une simple déclaration, mais en fait, c'est le fruit d'un travail lié entre le ministère des Finances et les différentes régies financières. Alors, pour que ces programmes d'action puissent se réaliser, quels sont les grands axes, en fait, les points essentiels, en fait, de la stratégie. Le tout premier point, c'est d'abord assurer un fonctionnement normal au service des régies. Parce qu'en fait, ça, c'est la première préoccupation. Il faut mettre les agents dans des bonnes conditions pour qu'ils puissent produire les meilleurs d'eux-mêmes. C'est ça, le tout premier point.
Et qu'est-ce qui est fait à cet effet, concrètement?
En fait, à cet effet, au niveau du gouvernement, il y a un engagement ferme du pouvoir assurer aux régies financières la rétrocession régulière, donc tous les mois, et de pouvoir même régulariser les cas des arriérés qu'on a connus il y a quelque temps. Donc, le souci, c'est vraiment d'assurer, d'abord, au niveau du fonctionnement, à ce qui concerne les moyens, mais à ce qui concerne les moyens humains également. Parce qu'il y a des problèmes, il faut affecter à la place qu'il faut, disons la personne qu'il faut, à la place qu'il faut. Et à cet effet, il y aura une sécurisation en fait de la situation des agents, parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à leur situation, mais au niveau du gouvernement, on voudrait régler ce problème afin de faire une affectation qui permette à ce qu'on puisse arriver effectivement à ce doublement des recettes. Donc, c'est effectivement remettre les agents au travail de manière à ce que le pacte de doublement des recettes puisse réussir. Mais il y a aussi tous les autres axes dont son Excellence Monsieur le Ministre venait de parler, dont la lutte contre la fraude, l'évasion fiscale et le détournement des recettes, mais également la poursuite des différentes réformes qui sont amorcées. Et puis, je dirais même dans le cadre de ces réformes, il y a aussi l'amélioration du climat des affaires sur lesquelles le gouvernement insiste, parce qu'en fait, mieux les opérateurs économiques réalisent des affaires, mieux l'État pourrait aussi percevoir des taxes.
Honorable Founabandi, vous venez de suivre Dieudonné Lokedi qui s'exprimait sur le fait d'assurer un fonctionnement normal des agents des régies financières. Mais on se souvient que l'année passée, par exemple, le gouvernement a eu beaucoup de mal à honorer ses engagements vis-à-vis de ces régies. Ça en est suivi beaucoup de grèves. Pensez-vous que cette fois-ci, c'est la bonne?
Je parlais de pacte, je dis que tout c'est une question d'engagement et de responsabilité de chaque partie. lorsque le gouvernement assigne un niveau de recettes aussi important au régime financier, je pense qu'il doit prendre les mesures nécessaires, les dispositions nécessaires pour que des moyens soient alloués à ces régimes financiers et au personnel de ces régimes, de telle sorte que les recettes attendues soient réalisées. Alors la question que vous posez est pertinente, est-ce que cette fois-ci est-elle la bonne? J'ose espérer. En fait, il n'y a pas que la question de motivation du personnel, le directeur du cabinet général l'a dit, c'est une question qui a souvent posé des problèmes, la question d'encadrement du personnel, mais également il y a la question liée au fonctionnement des régies financières qui doivent être dotées de moyens appropriés, qui doivent être modernisés, dont le fonctionnement doit être modernisé, notamment l'informatisation des services. Il y a donc tout un arsenal de mesures que le gouvernement doit prendre pour doter les régies financières des moyens appropriés, de l'outil nécessaire pour réaliser cette mission. Maintenant, je voudrais revenir sur la question même du pacte de dédoublement des recettes. Moi, je pense que cette question, c'est un concept assez nouveau, il est innovant, mais il soulève tout de même des questions. La première question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir pourquoi parle-t-on de doublement et non pas de triplement? Pourquoi pacte d'augmentation des recettes et non pas pacte simplement, plutôt pourquoi pacte de doublement des recettes et non pas pacte d'augmentation des recettes? Il y a autant de questions qui sont posées et donc là je considère que le gouvernement doit avoir suffisamment approfondi la question pour que l'on arrive à dire que les régies financières doivent doubler leurs recettes et non pas les tripler ou les augmenter tout court. Et donc là, je reviens sur la question des mesures d'encadrement, des mesures d'accompagnement qui doivent être prises, mais également des mesures en termes de sanctions positives ou négatives, des mesures en termes de réforme fiscale, le ministre lui-même l'a dit, parce que les recettes peuvent augmenter non seulement parce que les régies financières sont mieux encadrées qu'avant, mais les recettes peuvent augmenter aussi parce que des nouveaux actes générateurs de recettes sont initiés ou parce qu'il y a des réformes fiscales qui sont mises en chantier.
Il y a deux auditeurs de Kinshasa qui nous écrivent. Le premier, c'est Raymond Kasangala qui dit « Je suis pessimiste à cette signature car elle n'accoucha que d'une souris parce qu'il y a toujours de bonnes mesures, des bonnes décisions, des lois et même des très bonnes intentions. Mais ce qui manque à notre gouvernement, c'est le suivi afin de faire tomber les conséquences sur ceux-là qui ne s'alignent pas. » Alain Lomanja de Kinshasa encore « Le problème des assignations est qu'elles cachent bien la corruption qui gangrène les régies financières. Quand on les atteint, on estime que c'est l'essentiel est fait. Dommage, car des sources sûres, ce qui est perdu est toujours plus grand. Il est donc plus prudent de considérer ces assignations comme des indicateurs de performance plutôt que comme autre chose. » Honorable Vunabandi, un commentaire sur ces réactions.
C'est des réactions qui sont tout à fait fondées. D'abord, ce pessimisme que le premier auditeur a exprimé. Je crois qu'il a raison lorsque l'on nous dit que de telles mesures ont été prises. Il aurait fallu, n'est-ce pas, qu'on nous précise quelles sont les mesures d'encadrement pour nous permettre, n'est-ce pas, de garder l'optimisme. Et donc, si de telles mesures, une mesure comme celle de l'impact de doublement de recettes est prise, si une mesure comme celle-là est prise, sans qu'elle soit encadrée, sans que des mesures concrètes, n'est-ce pas, de motivation du personnel, d'encadrement de services, de dotation de moyens et des équipements appropriés, sans que n'est-ce pas, des mesures soient prises, je suis sûr qu'à ce moment-là, de telles recettes attendues ne pourraient pas du tout être réalisées. Alors l'autre auditeur parle de corruption, il a tout à fait raison, parce que lorsque de telles assignations sont décidées, il ne faut pas se limiter là, il faut cette fois-ci sévir, en tout cas, à la politique de tolérance zéro qui a été depuis quelques temps, n'est-ce pas, le maître mot du pouvoir ou du gouvernement. Cette politique de tolérance zéro doit pouvoir s'appliquer à l'ensemble du personnel des régies financières, n'est-ce pas, qui s'adonne à la corruption de tous les mois des recettes de l'État, mais également à l'endroit de contribuables et d'autres opérateurs économiques qui sont caractérisés par l'intimisme fiscal. Sinon, alors, le pacte de doublement de recettes ne sera qu'un mirage.
Al-Kitenge, nous sommes au niveau des mesures d'accompagnement de ce doublement des recettes financières, mais il y a des auditeurs, deux autres, Blaise Osongo de Kamanga au Kasai Occidental, qui dit « La signature entre le gouvernement et les régies financières signifie-t-elle que par le passé, ces régies réalisaient des recettes moindres que celles qu'on attendait d'elles ou quoi ?» Joël Hulard-Wedunga, en province orientale, dit « Par le simple fait que les trois régies financières venaient d'accepter le doublement des recettes au gouvernement congolais, cela ne prouve-t-il pas qu'elles les faisaient autant auparavant et que cela prenait une destination inconnue ?»
C'est de toute évidence, et je pense que c'est pour ça que j'ai dit, à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut un pacte de pardon réel pour oublier le passé et regarder plutôt l'avenir. Je pense que nous en sommes plutôt là. Et à mon avis, c'est quand même important de clarifier un certain nombre de termes. Lorsqu'on dit élargir l'assiette, il y a deux notions là-dedans. Il faudrait que tout le monde participe. Par exemple, savez-vous que les députés ne payent pas l'impôt sur leur salaire? C'est totalement inacceptable. Autant on demande des efforts à tout le monde, autant on doit demander à ceux qui sont en train de nous gouverner. Donc moi je dis, l'exemple doit venir d'en haut, les politiciens doivent être les premiers à pouvoir démontrer qu'ils font partie de l'effort. Le deuxième point que je voulais soulever, c'est que finalement, lorsqu'on parle de l'assiette fiscale qu'il faut élargir, c'est l'assiette existante, ça veut dire la plupart des gens qui fonctionnent dans l'informel, mais aussi et surtout les nouveaux intervenants. Mais là, nous sommes dans un pacte de doublement et ça concerne 2010. Il faut savoir, et il faut rester pragmatique, il s'agit pour le ministre des Finances de serrer de manière tout à fait justifiée, c'est pour ça que le pacte c'est avec les régies financières, les trous par lesquels passaient les recettes de l'État. Mais il lui manque quelque chose de fondamental. Il lui manque l'outil informatique de base pour être en mesure de faire un monitoring complet. Le ministre des Finances est dans une situation où, en temps réel, il ne pourra constater que les dégâts après. Ça sous-entend qu'en fait, il doit agir par des périodes très courtes. À mon avis, chaque mois, il doit être en mesure de faire le point. Et s'il ne fait pas le point chaque mois, il constatera à chaque trimestre que ce qui devait être fait n'a pas été fait, parce qu'il n'a pas l'outil informatique qui lui montre clairement en temps réel comment les choses sont en train de se passer sur le terrain. Et de ce point de vue, et je voudrais conclure par là, c'est qu'il est important que la discipline règne au sein de la maison. Et la discipline concerne les opérateurs économiques purs, mais également les opérateurs économiques à coloration politique. Vous savez, chez nous, il n'y a pas une loi qui empêche aux politiciens de faire des affaires. Alors on se retrouve des fois avec des politiciens qui sont des hommes d'affaires et qui, eux, ont un statut spécial. Et ça, ça énerve les opérateurs économiques purs, ceux sur qui pèse tout le poids de la rigueur. Et ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment prêcher par l'exemple. Et là-dessus, j'en appelle à quelque chose de très important. Je l'ai dit de manière directe au ministre lorsqu'il a parlé à la FEC. Il faut oublier le passé et ne pas faire peur aux opérateurs économiques. Dans le passé, le système était trop faible. Il était fait pour être contourné. Si vous ne le contournez pas, vous avez la concurrence, et la concurrence est faite des gens qui, eux, trichent et font tout ce qu'ils veulent sans payer ce qu'ils doivent payer à l'État. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui ont développé des réflexes de protection. Aujourd'hui, ce n'était pas nécessairement de leur faute, c'était surtout de la faute de la faiblesse de l'État. Et si aujourd'hui on voudrait regarder les choses autrement, c'est un véritable pacte qu'il faut prendre, mais quand on prend un pacte, on met un point, on oublie le passé, on s'engage dans l'avenir à un certain nombre de conditions de ne pas récidiver. Et là-dessus, un pacte sur le doublement des recettes et beaucoup plus tard sur le triplement et peut-être le quadruplement doit être basé sur ce que nous appelons une amnistie fiscale conditionnelle. Et là-dessus, il est important que l'on se rende compte que ce pays est énorme. Lorsque vous analysez les chiffres du Premier ministre, il montre clairement qu'il y a une grande partie de notre territoire où il ne se passe aucune activité économique.
Dieudonné Lokadi, ces mesures qui entourent le doublement des recettes, ne va-t-il pas effrayer les opérateurs économiques, entraîner la surtaxation, les tracasseries, la hausse des prix? C'est même la préoccupation de Tim d'Office de Kimbo Manyema qui dit de Clovis Bilembe, pardon, de Mbandaka à l'Équateur, nous saluons cette initiative, mais c'est mieux que celle-ci se fasse pour l'intérêt général de la population. Ne va-t-on pas craindre finalement des surtaxations à outrance?
Non, je crois que son Excellence le ministre des Finances, lorsqu'il s'est adressé à la FEC le vendredi dernier, il a raconté justement cette préoccupation. L'objectif, ce n'est pas d'exiger plus que ne le prévoit la loi. Le problème, c'est qu'il faut payer conformément à ce que prévoit la loi. C'est simplement ça. Et je soutiens totalement ce que disait tout à l'heure
Kitenge,
oui, à rapport avec l'élargissement de l'assiette fiscale, parce qu'en fait, l'élargissement de l'assiette fiscale repose sur deux éléments. Il faut d'abord que ceux qui payent puissent payer la totalité de ce qu'ils doivent payer conformément à la loi. C'est cela. En fait, amener tout le monde à payer, mais ceux qui doivent payer à l'État, non pas une partie. Et puis, deuxièmement, il faut amener l'ensemble de ceux qui doivent, au regard de la loi, de l'état, à l'état actuel de la loi, à payer les droits. Je crois que le principe, en fait, qui sous-tend même la signature de pacte, c'est en fait d'amener tout le monde à payer, à assurer une application en fait rigoureuse des dispositions légales en matière de droits, impôts et taxes. C'est cela, en fait, l'objectif qui est poursuivi. Mais si vous permettez, je voudrais apaiser, je crois que c'est l'honorable Mabandi et puis même d'autres intervenants qui étaient un peu inquiets par rapport aux mesures d'accompagnement. Ils se demandent si, après un certain temps, on ne va pas oublier qu'il y avait eu une signature d'impact de doublement des recettes. Non, je voudrais les rassurer. Effectivement, au niveau du ministère des Finances, il y a tout un mécanisme qui est mis en place pour permettre un accompagnement des régies. Donc, en fait, ce n'est pas qu'après la signature de pacte, on laisse les régies de leur côté et puis le ministère aussi reste pour attendre une évaluation éventuelle. Non, mais le ministère va accompagner, marcher au jour le jour avec les régies. Parce qu'il y aura, s'il y a des éléments, vous savez par exemple qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des grands marchés avec l'État et qui n'ont pas payé, disons, qui ne sont peut-être pas connus par l'administration. Et de ce côté-là, c'est le ministère qui devra, avec les structures qui seront mises en place, rechercher toutes ces informations pour les mettre à la disposition des régies de manière à leur permettre de pouvoir arriver effectivement au doublement des recettes. Donc il existe tout un accompagnement. Donc bien sûr, toutes ces données qui seront mises à la disposition des régies devront être évaluées parce que ce sont les régies qui devront appliquer les textes.
Alors, sans vous couper en un mot, Al-Kitenge a parlé de l'amnistie financière.
Bon, je crois que son excellence, monsieur le ministre des Finances, aussi a évoqué le premier, d'ailleurs, la question lors de son intervention de vendredi dernier. Il a parlé de l'étude qui est en train d'être menée en vue de voir la possibilité d'accorder effectivement une amnistie fiscale. Mais les commentaires que je pourrais faire à ce niveau, c'est que l'amnistie fiscale, c'est un instrument effectivement très important, mais il doit s'inscrire dans le cadre d'un changement réel de mentalité. Un changement réel de mentalité, parce qu'on ne peut pas utiliser cet instrument et voir les gens par la suite continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait. C'est-à-dire que quand l'administration aura appliqué, disons de manière vraiment stricte, les textes, et que les gens sentiront qu'effectivement il y a un poids à payer l'impôt, et qu'ils prendront conscience du fait qu'il faut se mettre effectivement en règle, c'est là, à ce moment-là, s'il y a effectivement des difficultés, on pourrait effectivement utiliser cet instrument qui est l'amnistie fiscale.
Honorable Vunabandi Uchai Babi de Bouya en province orientale dit l'initiative de ce doublement de recettes est bonne, mais la peur est que c'est nous, populations, qui serons victimes des hausses de prix à travers les multiples tracasseries commerçantes. À ce sujet, Dieudonné Lokadi a dit que ce n'était pas ça l'orientation du ministre. Quel est votre point de vue?
Je pense qu'à ce stade, si le ministère des Finances, le gouvernement, considère que le pacte de doublement des recettes s'entend dans le sens de la pistache effective et correcte de la loi fiscale actuelle, il n'y a pas de raison que les citoyens, les consommateurs aient peur de quoi que ce soit. Parce qu'en fait, il s'agira tout simplement de demander aux opérateurs économiques de payer ce qu'ils doivent réellement payer en tenant compte de la loi actuelle en matière fiscale. Mais si, dans le cadre de la mise en œuvre de ce pacte de doublement des recettes, il y a toute une série de mesures qui sont prises dans le sens de créer des actes générateurs des recettes nouveaux, là, ça risque de poser des problèmes. La tendance pourrait être pour les opérateurs économiques, n'est-ce pas, à répercuter cette nouvelle charge fiscale sur les consommateurs. Et donc là, je rentre sur ce que j'ai dit, c'est que j'appelais mesures d'encadrement de ce pacte de doublement des recettes, des mesures qui doivent également viser à protéger la population contre tout risque pour les opérateurs économiques à reporter la charge de l'impôt sur les paisibles citoyens. En fait, lorsque je reviens d'ailleurs sur la question d'amnistie fiscale qui a été soulevée par un des intervenants, je suis d'accord avec le directeur de cabinet adjoint que à ce stade, je crois que le pacte qui a été signé, c'est un pacte qui a été conclu avec les régies financières, mais qu'il faut pour l'instant continuer à dialoguer. Le gouvernement doit continuer à dialoguer avec les opérateurs économiques, de telle sorte que, le moment venu, il puisse aussi y avoir une sorte de pacte avec les opérateurs économiques, mais quel pacte pourra alors, à ce moment-là, conduire à décréter une amnistie fiscale pour les situations collectives antérieures? C'est seulement à ce moment-là, lorsqu'il y a un engagement fort de part et d'autre, notamment des opérateurs économiques, à éviter les erreurs du passé, à éviter la fraude, que seulement on peut envisager une véritable amnistie fiscale. Donc, j'ai conclu en disant que les craintes de notre auditeur, de l'ami qui a parlé du risque pour la population d'être victime de ces mesures, cette crainte est en partie fondée, ou pourrait être fondée seulement s'il n'y a pas des mesures d'encadrement, alors dans le sens, n'est-ce pas, de contenir tout débordement des opérateurs économiques qui seraient tentés de pouvoir reporter tout pas excédentaire de l'impôt sur les terrains des citoyens.
Un autre auditeur, honorable Vunabandi, c'est Emamba Lajuma, Texas, de Kalimi au Katanga, qui dit, même si les recettes de ces régies financières sont doublées de 50 ou 80%, si le gouvernement ne met pas assez de rigueur contre ceux qui détournent les fonds et pratiquent l'exploitation illicite des minerais à travers le pays, cette décision ne va porter aucun fruit.
C'est exact. Je crois que, comme je l'ai déjà dit, il faut que le gouvernement puisse réhabiliter effectivement la sanction. La lutte contre l'impunité doit être quelque chose de concret. On doit passer des simples paroles aux actes concrets. Il faut que désormais, l'on sanctionne non seulement les agents véreux, les agents de l'administration qui pourraient se livrer à la fraude au détournement des recettes, mais également il faut être suffisamment sévère avec les opérateurs économiques qui ne pourront pas appliquer la loi. Donc là-dessus, je pense que pour que ce pacte se réalise effectivement, il faut non seulement encadrer les régies financières, mais également il faut s'assurer que la sanction est effective à l'endroit de tout le monde.
Al-Kitenge, le ministre a aussi annoncé qu'il faut réformer le système fiscal congolais. Comment cela devrait se faire concrètement?
Sauf si je me trompe, la mesure phare, c'est la mise en place de la TVA. C'est une mesure qui
dure sur la valeur ajoutée.
Ça fait une dizaine d'années qu'on traîne les pieds, mais on va rapidement y aller. Mais je voudrais d'abord, avant d'intervenir, revenir sur quelque chose d'extrêmement important, du moins à mes yeux. Le pacte, il est entre le ministère et
les
régies financières. Le pacte aurait dû être triangulaire et immédiatement. Parce que tout de suite, aussi vite qu'on sert les régies financières, elles servent les opérateurs économiques. C'est naïf de penser qu'on peut faire pression sur les opérateurs économiques et leur demander de payer tout ce qu'ils doivent payer et ne pas avoir un impact sur le prix. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais payé et qui ont toujours utilisé cela comme un élément de concurrence sur le marché. Ils rabattent les prix parce qu'ils ne payent pas les taxes. C'est comme l'ensemble d'entreprises qui bénéficient d'exonérations exagérées qui ne sont pas justifiables. Ils répercutent cela sur le prix pour être en mesure de se mettre en position concurrentielle par rapport aux autres. Et si, du jour au lendemain, on leur demande de tout payer, on les contrôle et les oblige de payer comme tout le monde, ce sera comme avec la douane et l'entrée en vigueur de Veritas. Tout de suite, les prix sont montés. Donc les prix vont monter, il faut dire la vérité aux Congolais. Qu'à cela ne tienne, c'est pour ça que j'insiste en disant, pour autant que les opérateurs économiques font partie du jeu, puisque les régies financières vont faire pression sur eux, il est important d'avoir un pacte triangulaire. Et maintenant, l'une des composantes de ce pacte, L'une des composantes de ce pacte, c'est cette amnistie fiscale, et c'est maintenant. Beaucoup plus tard, ça n'aura pas d'effet. Croyez-moi, il y a un besoin d'engagement citoyen de la part des opérateurs économiques. Il y a un besoin de changement d'attitude. Et cela est dicté par le fait qu'on doit être en mesure de se dire c'est un engagement de part et d'autre pour un bien commun sur le long terme. Il y a une responsabilité de l'État dans la manière dont les choses étaient faites par le passé. La fraude dans le passé était due à l'État lui-même. Système administratif extrêmement faible, des opérateurs politiques trop impliqués dans les questions économiques. Nous connaissons toutes ces affaires de fraude facilitées par certains généraux et certains hommes politiques. Il est donc important que l'on se regarde droit dans les yeux, qu'on regarde notre histoire en disant « Nous rompons le cordon ombilical avec le passé négatif pour avoir une vision nouvelle. » Et cette vision nouvelle, je suis très content qu'on l'appelle pacte, et que ce soit un pacte qui ne peut pas être entre les régies financières et le ministère et le gouvernement, je voulais dire, mais ça doit être un pacte entre les opérateurs économiques, le ministère et les régies. Parce qu'en fait, il n'y a pas moyen de faire sans.
Al Kitenge, il y a Robert Baumet de Bukavu, c'est qui vous qui dit « Je pense que le doublement des recettes publiques, c'est bien, mais leur canalisation dans le compte du trésor public serait mieux. »
Bon, en fait, il dit une chose de son contraire. Si les recettes sont constatées doublées, c'est qu'elles sont dans le compte du trésor public. C'est de toute évidence. Je comprends bien la pertinence et la méfiance des Congolais par rapport à tout ce que le gouvernement entreprend. Mais pour une fois, nous avons là un ministre qui prend des engagements et qui prend des engagements chiffrés. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup que le directeur de cabinet adjoint ici donne l'impact chiffré de ce que nous attendons en réalité. Parce que dire doublement de 1, ce n'est que 2. Mais doublement de combien et lorsque nous regardons ce doublement, nous regardons le doublement sur les recettes internes. Et lorsque vous regardez les prévisions budgétaires de notre pays, nous sommes aux alentours de 2 milliards de dollars qui étaient attendus. Quel était le niveau de recette l'année dernière et quel est le niveau de recette que l'on attend cette année? Ça, c'est des choses sur lesquelles il faut quand même qu'on dise la vérité aux Congolais pour qu'ils se rendent compte qu'un chiffre est collé à la vision du ministre.
Dieudonné Lokadi, vous y répondez directement. Ok, je peux donner quelques indications là-dessus. Effectivement, les trois régies, là, en 2009, ont réalisé autour de 1300 milliards de francs congolais. Et en fait, le pacte de doublement des recettes va amener le niveau de recettes des trois régies à 2977 milliards. Vous direz que c'est plus que le double. Effectivement, c'est plus que le double. Parce que en fait, dans son discours, son excellence, le ministre l'a souligné, le doublement, c'est pour certaines provinces. Mais pour les provinces de l'Est, notamment les Katanga, les Nord Kivu et les Sud Kivu, au regard de l'évolution de la situation économique, c'est plutôt les triplements. Disons, la situation économique est aussi, il faut le dire, la situation d'évolution positive, la situation sécuritaire, et a conduit à ce que pour ces provinces-là, l'effort demandé soit plus important. Donc c'est le triplement qui est attendu pour ces provinces, ce qui fait que globalement, en fait, les chiffres attendus sont de 2977 milliards. En fait, il y a autour de près de 970 milliards de plus par rapport au budget de l'État tel que voté au titre de l'exercice 2010.
Mais Al Kitenge a quand même dit qu'il faudrait dire la vérité aux Congolais, les prix vont augmenter, vous allez y réagir. Il a aussi parlé d'un pacte triangulaire.
Bon, je crois qu'il faut voir d'abord l'engagement du gouvernement. Ce n'est pas seulement une affaire du ministère des Finances, il y a d'autres structures qui sont chargées de pouvoir contrôler les prix, qui sont des structures du gouvernement et qui seront aussi totalement impliquées. Je pense que s'il y a un impact sur le prix, mais ça devrait être un impact totalement contrôlé. Totalement contrôlé, il ne peut pas y avoir de dérapage par rapport à cet aspect de choses. Parce que comme on le souligne, en fait, ce qui est recherché, c'est tout simplement d'amener les opérateurs économiques et l'administration à appliquer ce que prévoit la loi. Il n'y a pas d'impôts supplémentaires qui seront réclamés, il n'y a pas de nouvelles taxes qui seront créées, mais ce sont les mêmes taxes qui seront recouvrés, mais de la bonne manière. Honorable Vunabandi, votre point de vue sur ce pacte triangulaire proposé par Al-Kitenge qui pense qu'il fallait y aller maintenant et pas attendre après.
Je crois que j'étais le premier à soutenir que dès lors qu'il a déjà été signé un pacte avec, entre la, le gouvernement et les régies financières, il faut envisager très rapidement également un pacte avec les opérateurs économiques. C'est une très bonne chose. Donc si cela avait été fait dans l'immédiat et concomitamment, ce serait une très bonne chose. Bon, maintenant que dans un premier temps, c'est le gouvernement et ses administrations qui se mettent d'accord sur un pacte, je crois que c'est une très bonne chose qu'il faut encourager. Mais en même temps qu'il faut souhaiter que le gouvernement aille dans le sens de négocier avec la SEC, avec les opérateurs économiques, de telle sorte qu'il y ait quelque chose de concret qui puisse justement justifier désormais ce que Al-Kitenge a appelé l'amnistie fiscale, notamment. Et donc, l'idée d'un pacte triangulaire, c'est une très bonne idée, mais dès lors qu'on est déjà avancé dans la logique d'un pacte, d'abord dans un sens, dans le sens du gouvernement vers les régies financières, il faut plutôt continuer à dialoguer avec la SEC, avec les régies financières, dans l'espace très rapidement. Un pacte pourrait également être signé entre le gouvernement et les régies financières. Je voudrais revenir sur la question de l'augmentation des prix. Moi, je crois que le directeur de cabinet adjoint a été clair là-dessus. La question de prix, c'est une question qui doit également être suivie et encadrée par le gouvernement. On ne peut pas, il ne faudrait pas, dès à présent, effaroucher les consommateurs ou justifier dans les chefs des opérateurs économiques une quelconque augmentation des prix qu'ils doivent anticiper. Non. Je crois que si tout le monde s'applique à payer son impôt dans le cadre de la loi existante, il n'y a pas de raison, si le gouvernement fait son travail de contrôle et d'encadrement des prix également, c'est les attributions là, du ministère de l'économie, il n'y a pas de raison dès à présent d'anticiper et de pousser les opérateurs économiques gérer, n'est-ce pas, aller dans le sens de l'augmentation des prix. À moins qu'il y ait des actes générateurs nouveaux, à moins notamment que la réforme, par exemple, de la TVA qui est envisagée ne soit pas bien encadrée, là, c'est des questions qui peuvent très rapidement conduire à une forme d'escalade dans le prix. Voilà tout ce que je peux dire à ce stade.
Al-Kitenge, il reste très peu de temps pour terminer l'émission. Il y a Jackson de Bandundouzil qui dit « Pourquoi ne parle-t-on pas du paiement de la dette intérieure avant de parler de doublement de recettes ?»
On paye avec ce qu'on a. Il est donc important que l'État collecte d'abord des fonds avant de les redistribuer. Et je pense qu'il a raison d'insister sur le fait qu'il faille qu'on paye la dette intérieure parce que ça stimule l'économie. Mais je suis très content que ce soit quelqu'un qui appelle le Bandundu qui pose cette question parce que ça pose toute la grande question de la nécessité d'une économie asymétrique dans notre pays. Notre pays a des pôles de production et des pôles de contribution à l'assiette de l'État, mais il y a des zones mortes et les chiffres du Premier ministre sont très clairs là-dessus. Il est important que l'État entrepreneur, l'État coach, se rende compte de l'intérêt et de l'importance immédiate de pouvoir engendrer des activités économiques intensives dans un certain nombre de parties de notre pays où il ne se passe rien. Plus on y travaillera, moins on aura des pressions sociales, plus on aura des emplois et plus on aura des contributions. Il est donc important que l'État se dote d'un plan d'intensification d'activités économiques et ça revient dans ce que le ministre des Finances a appelé l'élargissement de l'assiette. Il faut saisir celle qui existe, mais il faut créer une nouvelle assiette fiscale. Et là-dessus, toute la question des investissements aussi bien directs, étrangers et locaux est extrêmement importante. Il faudrait qu'on revisite notre façon de pouvoir conduire les activités économiques dans le pays.
Alors, Félix Delouvain en Belgique, je suis particulièrement satisfait de cet engagement des régies financières, mais si ces régies sont désormais disposées à doubler leurs recettes, cela donne à penser qu'elles ont été capables de le faire avant. Pourquoi ne le faisaient-elles pas?
Non, encore une fois, moi je suis pas de ceux qui regardent le passé. Notre passé est très sale pour des raisons que nous connaissons tous très bien. Notre système de gestion est très faible, était très faible. Et notre système administratif ne permettait pas que les choses se fassent de manière performante. Nous sommes là dans un début d'une démarche. Doubler ne suffit pas. J'ai encore donné des indications. L'Angola et le Congo-Brazzaville ont entre 20 et 30 fois plus de moyens par tête d'habitant par rapport à nous. Il est donc important que nous sachions que nos ambitions sont bien plus lointaines.
Un mot en guise de conclusion, Al-Kitenge.
Nous devons moderniser l'État. Nous devons conscientiser les citoyens. Nous devons occuper notre pays avec une administration et une initiative économique importante.
Dieudonné Lokadi a suivi ça de la faculté d'économie de l'université de Kinshasa qui dit « Est-ce que le gouvernement a effectué l'étude de faisabilité avant de faire signer au régime financier ce pacte de doublement de recettes ?» C'est ça votre conclusion en un mot.
Oui, je crois que je l'ai souligné lors de mon intervention en disant que effectivement, il y a eu tout un travail, tout un plan qui a été élaboré pour permettre à ce qu'on puisse parvenir à ce doublement de recettes. Je vous ai tout simplement appelé, en fait, toute la population à se mobiliser derrière ce pacte de doublement de recettes parce qu'il s'agit de l'affaire de tout le monde, de tous les Congolais.
Honorable Vunabandi, un mot en guise de conclusion également.
C'est une démarche que nous devons soutenir, l'étape de mobilisation plutôt de doublement des recettes, c'est une démarche que nous devons tous soutenir, mais il faut que le gouvernement fasse sa part de responsabilité, qu'il y ait des mesures d'encadrement réelles et que la sanction soit réhabilitée.
Merci honorable. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour aujourd'hui. Kéline Kouté et Samuel Tachak l'ont réalisé. Guy Manzango était à la mise en onde. Martin Sebujangwe à la coordination rédactionnelle. Au revoir.